Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. La ferme de Beaumescure, sur le cosse du Larzac, produit de la laine mohair depuis une vingtaine d'années. Mais Anna ne l'occupe que depuis peu, à la suite d'une reconversion mûrement réfléchie.
Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Bonjour, alors moi c'est Anna, je suis installée sur une ferme dans la commune de la Bastide-Pradine, sur le plateau du Larzac, à Beaumescure. Et j'ai repris une ferme en élevage de chèvres angora, d'une dame qui partait à la retraite.
Depuis combien de temps vous êtes tu ici ?
Alors je suis installée officiellement depuis un peu plus d'un an. Mais avant mon installation, en fait on est deux, parce que mon conjoint est aussi sur la ferme. Avant notre installation, du coup, on a fait un CFI, donc un stage transmission. Pendant 6 mois, on était sur la ferme avec Claudia, donc qui était l'ancienne exploitante, pour transmettre, pour apprendre le métier avant de s'installer vraiment, quoi.
Auparavant, tu étais déjà agricultrice ?
Alors non, pas du tout. Je travaillais dans le réseau Confédération Paysanne, donc j'étais pas complètement en dehors du milieu. Par contre, j'étais dans la vie de tous les jours, c'était plutôt du travail de bureau,
du travail administratif.
Voilà. Mais je travaillais quand même avec des paysans, j'organisais des marchés, etc. Et au bout d'un moment, en fait, je le savais depuis longtemps, mais je savais que je voulais passer de l'autre côté et devenir paysanne moi-même. Mmh. Et donc, quand j'ai rencontré Victor, lui, il était dans le spectacle. Et donc, lui aussi, il avait une envie vraiment de quitter la grosse ville, parce qu'on habitait à Paris à ce moment-là. Uh-huh. Donc, on a eu ce projet ensemble, en fait, de quitter Paris et de s'installer. On ne savait pas dans quel type de production au début. Donc, on a cherché un peu pendant un an pour arriver ici, quoi.
Et c'est l'opportunité qui vous a amené jusqu'ici, ou il y avait quand même un choix de venir genre dans le sud ou dans un pays paumé comme le Larzac ?
Alors, on était assez ouvert sur le lieu géographique, en fait. Moi, je suis bretonne. Victor, il était plutôt de région parisienne, mais il a habité beaucoup dans la région du Bordelais. Par contre, du coup, on a fait, en fait, on a fait ce tour de ferme. On a acheté un camion et on est allé de ferme en ferme pour identifier un peu les productions qui nous intéressaient. Il y avait pas mal de choses qui nous plaisaient. On se posait la question de travailler avec des ânes, dans les huiles essentielles, avec des chèvres. Les chèvres, c'était quand même un animal qui nous plaisait à tous les deux. Donc on a fait ça et on est allé. On connaissait pas trop le Larzac, mais moi je connaissais Eric Darlet, du coup, qui fait les huiles essentielles, avec qui j'avais travaillé à la conf. On est allé chez lui pour faire la cueillette du thym pour les huiles essentielles et pour voir si les huiles essentielles étaient quelque chose, une production qui pouvait nous intéresser. Donc on s'est rendu compte à travers cette expérience de ferme en ferme que c'était quand même plutôt l'élevage qui nous branchait, et en particulier les chèvres. Et après, les chèvres laitières, on a un petit peu essayé. Moi, je trouvais ça super de travailler avec les chèvres. Les chèvres alpines, Sanen ou n'importe quelle race laitière. Mais par contre, la fromagerie, je ne me voyais pas faire de la fromagerie tous les jours. Et puis, je ne voulais pas non plus faire des chèvres laitières sans transformation. Parce que pour moi, je trouve ça bien d'aller jusqu'à la transformation. Et je pense que c'est plus viable en plus avec une petite ferme. Du coup, on est tombé par hasard sur une ferme en chèvre angora. Et là, ça nous a vachement plu. Moi, j'en avais déjà un petit peu entendu parler. Et puis, on est aussi tombé amoureux de la matière, quoi, du mohair, de la fibre. Donc voilà, on est parti vraiment sur... On a fait des stages aussi dans les chèvres angora. Et on est parti sur les chèvres angora. Et en fait, le fait de vouloir s'installer à deux, avec en plus un petit bébé qui a pointé le bout de son nez assez vite, ouais. Et bien, on a décidé qu'on voulait plutôt reprendre une ferme plutôt que de partir de zéro avec 10 chèvres. Parce qu'en fait, en chèvre angora, les délais de transformation du mohair sont très longs. Donc si tu commences avec 5 ou 10 chèvres, il faut attendre au moins 1, voire 2 ans, la tonte, la transfo et tout, pour pouvoir vendre des produits. Et nous, on voulait quand même partir sur un truc économiquement viable pour vivre à 3 assez rapidement dessus, quoi. En fait, du coup, c'est ça qui nous a amené à choisir plutôt l'opportunité de la ferme plutôt que du lieu géographique. En sachant que le Larzac était un coin quand même qui nous avait beaucoup plu. On avait passé un peu du temps autour de Millau. On aimait bien tout ce qui était sport de pleine nature et tout. Enfin, on avait quand même flashé sur la région. Donc, voilà.
Et alors, c'est vous qui l'a transformé, la laine ?
Non. Alors, justement, alors ça c'est... En fait, on travaille avec d'autres éleveurs en coopérative. Donc on mutualise notre mohair, on tond les chèvres deux fois par an. Ensuite, on trie le mohair, donc ça nous prend quand même vachement de temps. Et ensuite, on l'amène à Castres dans une entreprise qui est spécialisée dans la confection des fibres naturelles. Donc c'est avec eux qu'on travaille, qui nous transforment le mohair de A à Z. Et nous, ensuite, on récupère les produits finis ou le fil. En sachant que cette coopérative, enfin c'est pas vraiment une coopérative, il y a deux structures en France, nous on travaille avec l'entreprise mais qui fonctionne comme une coopérative, mais c'est quand même les éleveurs qui décident des produits, on est dans des commissions, on choisit les couleurs, les produits, etc.
Il n'y a pas un phénomène de réunionnite du coup là? Si à chaque fois vous devez vous réunir pour vous mettre d'accord, pour savoir comment vous allez faire et tout, avec celui qui fait le boulot à votre place?
Et bah, non, ça va parce que c'est quand même assez bien organisé. Ça fait des années que les pionniers en fait, qui avaient ramené les chèvres angora avaient mis ça en place. Du coup, là, on part avec un truc qui fonctionne bien.
Et qui vous convient.
Ouais, ça va. Après, il faut voir. Nous, on a aussi envie de développer nos propres produits parce que du coup, on vend les mêmes produits que d'autres éleveurs. Donc, c'est un peu l'inconvénient de ce modèle-là. Ça nous permet de transformer des produits à un coût un peu moindre parce que c'est des quantités plus grosses. Mais à côté de ça, en parallèle, nous, on est en train aussi de développer nos modèles pour avoir aussi nos créations à nous. On est en train de travailler aussi avec quelqu'un qui se lance en teinture naturelle. Donc voilà, faire une gamme aussi à nous, quoi.
Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Comment tu choisis les teintures? Est-ce que tu passes par un autre professionnel? Est-ce que c'est toi qui... Tu choisis les couleurs ou
Du coup, il y a une gamme qui est proposée par cette entreprise à Castres qui travaille avec un teinturier qui est en Vendée. Et donc ça, c'est des teintures chimiques, mais qui sont certifiables Ecotex. Donc c'est quand même de la bonne qualité de teinture et assez respectueux de l'environnement quand même. Mais après, donc ils nous proposent une gamme. C'est la commission couleur qui nous propose une gamme de couleurs. Et nous, on choisit ce qu'on veut. Et après, par rapport à la dame qui fait des teintures naturelles, en fait, c'est la mère de Victor qui se lance là-dedans. D'accord. Donc c'est chouette. C'est chouette,
on travaille
en famille, voilà. Et du coup, là, on voit avec elle. Elle a déjà fait plein d'essais sur notre mohair. Et après, c'est à nous de décider ce qu'on veut comme couleur, quoi. Mais c'est intéressant. Parce qu'il y en a de plus en plus des filatures qui se remontent en France. Parce que nous, le problème, c'est que donc, cette structure qui est à Castres, elle travaille avec des prestataires. Et la filature est dans le nord de l'Italie.
Oh.
Ouais. Après, tu me diras, le nord de l'Italie, c'est plus local que le nord de la France, presque. Mmh. Mais quand même, c'est dommage de ne pas pouvoir avoir des filatures françaises qui acceptent le mohair. Et en fait, pour l'instant, ça se travaille de manière très différente de la laine de mouton. Donc là, on voit plein de filatures qui se remontent pour valoriser la laine de mouton. Donc ça, c'est super. Par contre, en mohair, c'est encore compliqué.
Il n'y a pas grand-chose.
Mais on a l'espoir quand même d'arriver à trouver peut-être un filateur pour transformer une partie de notre mohair plus localement. Ou voilà, essayer
de... Alors, aujourd'hui, au bout d'un an, est-ce que vous en tirez un revenu? Est-ce que vous en vivez de votre exploitation?
Alors, je saurais pas trop dire, parce que du coup, j'ai même pas clôturé le bilan
la
comptabilité de la première année. Pas vraiment. Mais oui, on s'en sort pas trop mal quand même.
D'accord.
En fait, avec le Covid, c'était compliqué de s'installer en année Covid. On savait pas du tout vers quoi on allait. Du coup, on a essayé de s'inscrire à plein de marchés, de salons en fin d'année, parce que nous, les ventes, c'est vraiment surtout l'hiver, en se disant peut-être qu'il y en aura qui seront annulés à cause du Covid. Et rien n'a été annulé. Du coup, on a pu participer à tous les marchés qu'on voulait. Du coup, on a quand même pas mal vendu. On s'est donné sur la vente, mais on a pas mal vendu. Donc là, officiellement, il n'y a que moi qui étais installée en entreprise individuelle. Mais en fait, on se rend compte qu'on est tous les deux à fond, toujours sur la ferme.
Ouais.
Donc, on est en train de passer en GAEC, là.
D'accord.
Donc, a priori, ouais, ça fonctionne. On verra. Mais après, le mohair, les chèvres angora, la particularité, c'est que la réussite économique dépend de notre façon de commercialiser les produits, en fait.
Mais ça allait être ma question suivante. Comment est-ce que vous vendez votre production?
Alors, on fait partie d'une boutique partagée, enfin, une boutique associative à Millau, les Cocottes Coquettes. Donc ça, c'est déjà une bonne base. Et ensuite, on vend sur des marchés et des salons qui sont plutôt en fin d'année. Donc Claudia, qui avait la ferme avant nous, elle faisait le marché de Montbéliard qui durait un mois. Donc là, c'est dans l'est de la France. Donc c'est quand même une grosse organisation. On l'a fait cette année parce qu'il y avait toujours sa clientèle. Donc c'était un petit peu un truc sûr. On ne sait pas si on va continuer. Par contre, on a aussi essayé de faire des salons un petit peu thématiques, quoi.
D'accord. Donc c'est au coup par coup en fait, vous allez dans un endroit spécialement, qui est là pour une période assez courte, vous vendez là, et puis après vous allez ailleurs. Vous ne faites pas quelque chose de récurrent, type un marché, à part la boutique de Millau, tu m'as dit.
Il y a la boutique de Millau et le marché de Montredon aussi l'été quand même. Et après voilà, sinon oui, nous c'est ce qu'on a choisi, les salons plutôt sur un week-end ou les salons temporaires. Les marchés hebdomadaires en mohair, c'est pas évident non plus parce que ça prend du temps. Et
mais
on
surtout si tu reviens toujours au même endroit, une fois que tu as un bonnet, tu vas pas en avoir quatre quoi.
C'est des produits qui sont durables en plus.
Mais c'est ça, ouais. Ben oui, faut, vous faites de la qualité aussi, faut pas.
Ouais. C'est ça.
Faut réfléchir à obsolescence programmée. En fait, si je comprends bien, votre démarche, ça a été un peu un retour à la terre, le fameux. Les néo-ruraux qui en ont marre de la ville, qui ont compris les limites du système de la ville. C'est un peu ça, votre démarche au départ?
Oui, alors...
C'est faire quelque chose de concret par vous-même?
Oui. Moi, je venais pas de la ville, hein, quand même. Ah, je tiens à le dire, parce que je
mais
me voyais
Bretagne,
pas...
Mais la Bretagne, il n'y a pas que des
villes. Ouais, non, je venais de milieu rural et je me voyais pas trop vivre toute ma vie en ville. Mais c'est vrai que, oui, c'était la démarche de revenir à un travail qui fait sens pour nous. Travailler avec les animaux, travailler avec le vivant, en fonction des saisons. Enfin, c'est toute une démarche qui est très différente de quand tu travailles dans un bureau. Et après aussi, au niveau de travailler plutôt dans les fibres naturelles, la laine et tout ça, notre démarche était de se dire, aujourd'hui, si tu veux acheter à manger localement, tu peux le faire, c'est facile et c'est bien, tant mieux, il y a de plus en plus de façons de manger local. Par contre, de s'habiller local, c'est encore compliqué, vraiment très compliqué, quoi. Et nous, et encore, tu vois, on parle de local, mais c'est quand même à l'échelle française, voire européenne.
Du sud
mais...
de la France ou...
Ouais, c'est ça. Et du coup, donc ça nous intéressait bien quoi, de partir là-dedans, sur les fibres naturelles, ça plaît de plus en plus. Et il y a vraiment un travail à faire au niveau mondial, je pense, sur le textile et l'habillement. Hein, c'est encore scandaleux au niveau écologique. Et...
Oui.
Après, voilà, donc nous, c'est le problème, entre guillemets. Enfin, c'est que du coup, on vend des produits qui ont un certain coût. Donc c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais après il y a quand même une démarche, voilà, c'est la façon de l'expliquer, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont prêts à acheter un pull beaucoup plus cher, mais un pull qu'ils vont garder toute leur vie plutôt que d'acheter 3 pulls par mois. Quoi.
Est-ce que c'est, alors maintenant ça fait un an que vous êtes là-dedans, je sais pas si vous avez déjà été sollicité par des gens qui s'interrogent, qui voudraient rentrer dans la même démarche que vous, est-ce que c'est un métier que vous leur conseillez? Et si oui, sur quoi vous mettez en garde?
C'est compliqué comme question parce que je ne sais pas si on peut parler de conseils quand tu veux t'installer en agriculture. Je pense qu'il faut être déterminé quand même quand tu veux t'installer en élevage. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas si on peut parler de conseils. En fait, il faut être déjà assez déterminé pour vouloir le faire. Je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir se lancer dans cette démarche-là. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez dur, assez rude. Des fois assez solitaire, il y a quand même des difficultés autour de ce métier. Après, c'est sûr que on a des gens qui viennent, qui se posent la question de s'installer en chèvre Angora et tout ça. Si la démarche leur plaît et qu'ils sont prêts à affronter les difficultés, bah oui, carrément quoi. C'est un métier qui est chouette, avec le peu d'expérience qu'on en a, pour l'instant, nous, ça nous plaît en tout cas. Ouais.
Et puis, avoir un élevage, ça implique aussi de jamais partir de la ferme. Sauf si tu trouves des remplaçants.
Oui, alors ça, je pense que le modèle agricole est quand même un petit peu en train de changer par rapport à ça. Moi, tous les jeunes, enfin, beaucoup de jeunes que je vois qui s'installent, ils arrivent quand même à trouver des solutions par rapport à ça. On n'est plus dans les modèles anciens de ferme où tu restais complètement bloqué sur ta ferme. Il y a aujourd'hui pas mal de gens qui se mettent en... qui s'installent avec des associés pour pouvoir se prendre des week-ends, voilà. Ouais, nous, on fait partie du groupement d'employeurs du Larzac, donc ça, c'est chouette, parce que du coup, on a un salarié qui est partagé sur plusieurs fermes. Donc tous les mois, en fait, on se réunit avec les autres personnes des fermes pour faire les plannings et dire quand est-ce qu'on a besoin du salarié. Du coup, ça nous permet de partir un petit peu et d'avoir le salarié qui nous remplace.
Ne t'inquiète pas, tout se dérègle, les eaux montent et l'air se réchauffe. Chaque jour des espèces disparaissent, mais bon demain sort le dernier smartphone, alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas, on gère les choses. Tu peux continuer à dormir du sang et des larmes sur la terre des hommes. Faut bien vendre des missiles et de la torpille. Oui, ça fait un bail que la paix est morte. On manie les mots et les projets sordides. Nous sommes à la fois les pyromanes, les pompiers. Et on te vendra la porte de sortie. Oui, mais ne t'inquiète pas. Si si les âmes se propagent à toute vitesse. Si la drogue assassine, c'est bon pour le business. Le gain, ça se mesure et pas la tristesse. Alors laisse et ne t'inquiète pas. Lundi sort la nouvelle série 7. Tu vois, ne t'inquiète pas. Et si t'as peur, il y a le 17. Alors ne t'inquiète pas. Si la détresse enflamme la terre, jusqu'à voir des jeunes commettre l'impardonnable. Des familles innocentes sous les feux de la guerre. Et non, ton village ne sera même pas nommable. Des serreux en calage qui se cachent derrière Dieu contre la foi de l'autre. Des forces impérialistes qui bombardent des enfants, des vieux au nom des droits de l'homme. Mais ne t'inquiète pas. Laisse-nous te bercer à voix basse. Laisse-nous te raconter des histoires. Laisse-nous réfléchir à ta place pendant que tu te divertiras. Laisse-nous faire à huis clos la tendance qui concerne ta planète. T'inquiète pas, demain sort le dernier smartphone et tu pourras dormir avec. Ne t'inquiète pas, si le ciel devient rouge, si les cœurs deviennent braises, si pour des guerres des gaules s'encoulent. Et si aucune parole ne se pèse, si partout sur le globe l'injustice béante fait croître l'esprit de vengeance, l'amour et la lumière de l'âme. Mais qui a conscience de ce que le manque d'amour engendre? Mais ne t'inquiète pas, le business est bon. On compte le monde en 10 chiffres, jouer à la guerre, c'est bon pour les comptes. Et en temps de crise, les riches enrichissent. Peu importe les cris de détresse qu'on étouffe, à coups de matraque, à coups de machette. Des femmes, des enfants, des dictats, des paramilitaires, des organes, ici-bas tout s'achète. Mais ne t'inquiète pas. Si l'âme du monde crie de douleur, le monde changera quand 51% de l'humanité incarnera l'amour de tout cœur. Pas un hasard, si homme de pouvoir incite implicitement à la haine de l'autre. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Et qu'est-ce qu'on n'inventerait pas pour dissimuler sa soif ou tourment? La culture de la violence se propage, elle fait des dégâts. De cause à effet, à quoi s'attend-on quand les armées, le sang inspire l'art d'un peuple en général? Si tout ce qui est vénéré est tout sauf vénérable, ce que ça peut générer dans un monde exécrable, frustré et excédé. Facile de perdre l'éclat, de péter des câbles et d'un jour de rejoindre des cœurs de glace. Te demande pas pourquoi on réfléchit pour toi. Qu'on somme sans voir et qu'on fonce vers un trou noir. L'âme du monde crie de douleur, personne ne veut voir. Baisser la tête et un jour sans mordre les doigts. Ne t'inquiète pas. Si la plaie a le visage de l'indifférence, si on crée des barreaux juste en légiférant, aucune humanité jusqu'à l'indigestion. Divertir et avec diversion. La haine engendre la haine, le sang engendre le sang. Sécurité musclée pour instaurer la paix, difficile d'en comprendre le sens. Mais ne t'inquiète pas. Si des monstres de verre s'érigent vers le ciel comme pour surveiller nos vies, nous cachent en plein jour l'horizon et le soleil et nous lèvent les étoiles de nos nuits. Somnambules rigides, on se renferme sur nous-mêmes, on se bloque paradis des momies. Handicapés émotionnels, on se brûle dans la colère, on se brûle dans l'euphorie. Laisse-nous te percer à voix basse, laisse-nous te raconter des histoires. Laisse-nous réfléchir à ta place pendant que tu te divertiras. Laisse-nous faire à huis clos la tendance qui concerne ta planète. T'inquiète pas, demain sort le dernier smartphone et tu pourras dormir avec.
Et du coup, vous exploitez combien d'hectares à peu près ?
Eh bien, on a à peu près 120 hectares.
120 hectares, pour combien de chèvres ?
On en a 130 là, avec une trentaine de chevreaux qui vont naître.
Ça fait un hectare par tête.
Et oui, presque. Ouais. Bah oui, bah ici.
Mais après, il n'y a pas grand-chose qui pousse, c'est sûr.
Voilà, et nous, on a la particularité aussi de ne pas rien cultiver, donc on n'a que des parcours. Donc ça veut dire qu'on achète le foin. Après, on en achète très peu parce que les chèvres sont tout le temps dehors, elles sont que sur les parcours, enfin, elles sont pratiquement tout le temps dehors, et elles mangent moins que des chèvres laitières, parce qu'elles produisent moins. Enfin, elles produisent le mohair, hein, mais voilà. Du coup, voilà, c'est un système vraiment particulier où on est sur un système extensif, quoi.
Et alors, toi, Anna, ça fait un moment donc, que tu es dans le milieu agricole, même si tu étais pas, si tu es agricultrice depuis un an. Mais j'imagine tu as vu l'évolution qu'il a pu se faire dans l'agriculture. Est-ce que tu as une idée de comment elle va évoluer dans le futur, dans les 10 ans, dans les 20 ans, que ce soit ici ou en général ou...
Ouais.
Je sais pas si tu as idée de ça, si tu as déjà réfléchi, ouais, j'imagine que oui.
Ouais, c'est compliqué aussi. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période quand même un peu particulière avec toutes les incertitudes. Du coup, tout ça quand même devrait nous conforter dans le fait qu'il faut plus de souveraineté alimentaire. Et je pense que le Covid a montré ça. La guerre en Ukraine le montre à nouveau. Donc je pense que, si on est optimiste, on se dit qu'il faudrait, dans 20 ans, il faudrait qu'il y ait une agriculture, qu'il y ait des fermes un peu partout, des petites fermes, et que les fermes soient reprises. Mais il y a quand même un vrai problème de transmission aujourd'hui. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des choses politiques qui soient mises en place pour préserver les paysans, quoi. Ouais. Pour aider les jeunes à s'installer et tout ça. Et pour l'instant, c'est encore compliqué, quand on est jeune, de se lancer dans ce milieu, quand on sait qu'on va avoir du mal à se sortir un salaire, qu'on n'aura pas de retraite, voilà. Donc tout ça, ce sera des choix politiques, à mon avis, qui vont faire qu'on va passer sur un modèle d'agriculture paysanne ou rester sur un modèle d'agriculture industrielle, mais qui va droit dans le mur, quoi.
Ouais. Et ouais. Il y a un quart des agriculteurs, je crois, qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Et comment on va faire pour remplacer ces gens-là? L'agro-industrie est prête à reprendre le truc, mais...
Bah oui, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais, la transmission, c'est encore très compliqué aujourd'hui. Hein. Hors cadre familial, et même dans le cadre familial, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est sur des grosses fermes qui sont intransmissibles. Globalement, en France, c'est des fermes où les anciens paysans restent sur la ferme. Ils ont fait énormément d'investissements. Donc ça revient très cher de reprendre une ferme, quoi. Ouais. Ouais.
Donc, là, tout le monde mange.
Et oui, ouais. Là, c'est calme, là. Ouais.
Là, c'est calme. Et donc, les mâles, comme les femelles, ont des cornes.
Oui, ouais, les chèvres angora, elles ont des cornes, on les laisse, et ça nous sert pour les attraper, d'ailleurs.
Ah oui, mais oui, c'est plus simple, plutôt que les attraper par les poils.
Oui.
D'accord. Et ils ont de sacrées cornes, les mâles, dis donc.
Et oui,
et ça fait des espèces de boucles.
Bah oui, ouais, ça grandit avec eux, quoi. Mmh. Après, là, c'est quand même une taille, je pense que ça va plus trop grandir, mais... Mmh. Mais après, on a aussi des petits mâles castrés, parce qu'en fait, les mâles, on peut les castrer et on peut les garder pour... ils produisent aussi du mohair, quoi. Mmh. Donc voilà, eux, par contre, les cornes se développent moins, du coup, quand ils sont castrés.
Celles où il y a les petites cornes, alors ?
Et c'est une femelle.
D'accord. Comment tu fais pour reconnaître le mâle de la femelle ?
Et bah, les mâles ont quand même la base des cornes un peu plus grosses, et puis après on les connaît, quoi.
D'accord.
Mais c'est vrai que les gens qui connaissent pas souvent, ils font pas la différence.
Bah ouais. Donc là, on est dans un grand bâtiment. Alors, ce bâtiment, il y était déjà quand vous êtes arrivé ? Ben oui, il a plus de
nains. Ouais, c'était déjà.
Avoir toutes les toiles d'araignée.
Ouais.
Et il fait quoi ? 30 mètres sur 10 de large ?
Ouais, je sais même plus exactement.
Je sais pas.
Mais voilà. Oui, c'est ça à peu près.
Et donc, c'est une bâche plastique tenue par des armatures métalliques.
Ben, ouais, puis c'est isolé en fait. Ça, c'est important que ce soit isolé parce qu'on les tond 2 fois par an, les chèvres. Quand on les tond en janvier, il fait froid, donc on ferme tout. Et la chaleur des chèvres fait que ça chauffe le bâtiment et du coup elles sont bien malgré le fait qu'elles soient tondues, quoi.
Donc,
ça leur fait du bien même.
Là, elles ont été tondues il n'y a pas longtemps.
Et ouais, fin janvier, ouais.
Donc, d'accord.
Et ça repousse très vite. Hein.
Et la deuxième tonte, c'est pour quand ?
Ce sera en juillet.
En juillet. La croissance du poil, tu étais en train de dire qu'elle est rapide. Quand tu le tonds au bout de 6 mois, il y a combien de longueur de poil à peu près ?
Je crois, au minimum 7 cm pour que ça passe dans les machines à la filature. Mais en général, c'est ça, ouais, à peu près dans ces eaux-là, 7, 8, 9 cm.
Et donc là, tout le monde est ici, là ?
Et oui. Là, tout le monde est là parce que du coup, pendant l'hiver, là, on va bientôt les ressortir.
Ouais.
Mais l'hiver, on les laisse en bâtiment. Et après, à partir du mois de mars, là, on attend des chefs qui vont mettre bas bientôt. Donc à partir du moment des mises bas, il y a la moitié du troupeau qui part sur une grande parcelle de 70 hectares et elles sont en semi-autonomie. En fait, on va les voir que tous les 2 jours. Mm-hmm. Et sinon, elles se gèrent pendant de mars à octobre à peu près.
Ouais, il y a beaucoup de vent aujourd'hui.
Ouais, il y a du vent, ouais.
quand tu les laisses sur les parcelles, il faut que tu ailles régulièrement, ne serait-ce que pour la flotte.
Oui, alors il y a un point d'eau là-bas. Hein, de toute façon, elles ont toujours de l'eau à disposition. Elles ont un abri aussi. Mm-hmm. Et on y va très souvent parce que quand même, on les compte, on voit s'il y a personne qui boite, si elles sont pas, enfin, si tout va bien. Et puis ça nous arrive qu'il en manque une ou deux et il faut aller la chercher.
Et alors la fameuse question qui crispe un peu tout le monde, le loup. Vous y avez eu droit vous ou pas ?
Alors nous non, mais Claudia qui en a repris la ferme, il y a eu le droit il y a quelques années, ouais.
D'accord,
ouais,
il y a quelques années. Ah ouais,
oui,
déjà.
Ça fait un moment, ouais. Bah oui, il y a eu des loups de passage hein, depuis déjà un paquet d'années, je pense. Et je crois qu'elle avait perdu une chèvre et une autre chèvre qui s'était fait mordre, mais qui s'était défendue.
D'accord.
Et nous, la particularité des chèvres, c'est que quand même, si elles se font attaquer, elles font face, elles se défendent. Contrairement aux brebis qui vont plutôt courir tout ensemble. Donc je pense que c'est quand même un poil plus compliqué pour un loup de choper une chèvre qu'une brebis, mais bon.
Notamment si elles sont cornues.
Eh oui, c'est ça.
Ça peut aider.
Souvent, c'est les grandes chèvres avec des grosses cornes qui sont les dominantes et qui protègent un petit peu le troupeau, quoi.
Il y a un truc, c'est, tu me dis, ce sont des chèvres angora.
Oui.
Pourtant, il y a souvent marqué mohair.
Oui. On peut dire les chèvres mohair ou les chèvres angora. Par contre, c'est vraiment la laine, ça s'appelle le mohair et pas l'angora. Parce que du coup, l'angora, le poil angora, par contre, c'est le lapin. Mais du coup, c'est vrai que les gens se mélangent un peu.
On dit des chèvres angora, mais la laine, c'est du mohair.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Ouais. Et c'est originaire d'où ces bestioles ?
Alors du coup, angora, ça viendrait d'Ankara, en Turquie. Donc, elle serait originaire de Turquie. Ouais. Après, on dit aussi qu'elles viennent de plus loin, à la toute base, plutôt des plateaux du Tibet, l'Asie centrale.
Comme le Cachemire, un peu.
Voilà,
ce sont des chèvres,
c'est
les Cachemires.
Ouais, c'est ça. Et ensuite, par contre, celles-ci, les chèvres angora françaises, elles ont été importées il y a une trentaine d'années, surtout du Texas et du Canada, en fait.
Oulu, elles ont fait des bornes.
Et ouais.
D'accord.
Pour les premières, voilà. Uh-huh. En fait, Claudia, donc, qui est partie à la retraite l'année dernière, faisait partie un peu des pionniers, des gens qui ont commencé à introduire des chèvres angora en France. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas très nombreux non plus, quoi.
D'accord, c'est quelque chose d'assez récent.
Ouais.
Ah, tiens, je savais pas. Très bien. Ouais. Et donc tu me dis jusqu'au mois de mars, elle reste enfermée. Elle déprime pas particulièrement, rester enfermée ?
Eh bien non, parce que là, tu vois, par exemple, tout le mois de janvier, il a fait très beau, on les a quand même sortis. Ah. Donc en fait, on les rentre très peu, hein. On les a rentrés vraiment début décembre, jusqu'au mois de mars, avec pas mal de sorties en janvier avant la tonte, parce que ça leur fait du bien. Mais tu vois, avant la tonte, elles voulaient pas sortir, parce qu'il faisait froid et surtout qu'il y avait plus rien à manger dehors, quoi. Donc en fait, ça leur fait du bien de rester tranquilles, on les nourrit et voilà. Puis après, elles sont contentes de ressortir au printemps quand même.
Et quand elles paissent, c'est que de la prairie ou elles vont des fois sous les arbres, hein, ou des trucs comme ça ?
Ouais, bah, ça reste des chèvres, hein, donc quand elles voient des petites pousses dans les arbres, elles se mettent sur leurs pattes arrière et elles essaient de les choper. Voilà, tu vois, elles sont curieuses.
Elle essaie de me manger la semelle. C'est pas très bon pour toi, 11002.
Elle s'appelle Mimine, celle-là.
Mimine, bah
elles,
ouais. Elles ont toutes un nom ?
Non, elles n'ont pas toutes des noms. Mais celle-là, c'est une chevrette qu'on a élevée au biberon. Parce que sa mère n'avait pas assez de lait. Et du coup, c'est notre fils qui l'a baptisée Mimine. C'est sa petite chèvre.
Ouais, c'est Mimine.
Ouais. Et... Tu veux que je les fasse, je leur fasse faire du bruit, quoi ?
Bah oui, si t'arrives à les faire bêler. Alors, on dit bêler pour les chèvres ?
Tu sais pas. Je crois, ouais, je sais pas. Je peux pas dire de conneries, mais je suis pas sûre de moi.
Ah, je peux les dire à ta place, c'est conneries, c'est pas un problème.
Ouais. Ça va les intéresser.
Hop, ça tourne la tête.
Ouais, mais sache que c'est pas l'heure.
Oh, oh là là. C'est pas le même bêlement que la brebis.
Ah bah non,
c'est plus saccadé.
Oui, et puis c'est moins fort aussi. Hein. Ouais. Les brebis, elles ont plus de voix.
Oui.
Après ça, c'est des chèvres vraiment tranquilles, quoi. De manière générale, même comparé aux chèvres alpines, par exemple, c'est des chèvres cool.
Oui, et elles se chamaillent pas entre elles ?
Si. Ah. Par contre, si, il y a toujours des histoires de dominantes et tout. Mais
elles se font pas mal, des fois, avec leurs cornes ?
Si.
Ah.
Si, un problème qu'on a par exemple, c'est que elle se déboîte, ça arrive qu'elle se déboîte la patte avant, l'épaule avant, parce qu'elle se coince dans une patte, dans une corne
de l'autre, hein.
D'une autre, et ça se déboîte. Donc ça, c'est chiant. Uh-huh. Elle se pète les cornes, si ça arrive, quoi, elle se castagne un peu quand même. Après, il y a de plus en plus de fermes pédagogiques qui prennent des chèvres angora, tu vois, parce que c'est des animaux qui sont doux, qui sont sociables, que tu peux approcher.
Oui, puis ça a l'air chouette à caresser.
Ouais. Moi, tu peux essayer. Hein.
Et donc, c'est pas du poil raide, c'est du poil.
Ah bah non, c'est très doux, ouais.
Ouais. Oui, et puis c'est du poil frisé quand même.
Ouais, ah. C'est tout. Oui, c'est tout frisé, ouais. Après, il y a plusieurs catégories. En fait, quand on trie le mohair, on va trier en fonction de la finesse du poil. Et ça, on le voit par rapport au style de la mèche, en fait. Enfin, en gros, il y a 5 catégories. Le plus fin, donc ça va être le mohair des chevreaux surtout, ça va servir plutôt à ce qu'on va porter sur la peau, les pulls et tout ça. Après, on va avoir les chaussettes, c'est sur la peau, mais c'est au niveau des pieds, donc c'est quand même du mohair un petit peu plus fort. Après, les vieilles chèvres, elles vont nous permettre aussi de faire, par exemple, les très vieilles, elles vont nous faire des charentaises. Donc, toutes les catégories de mohair sont bonnes à prendre, quoi.
Et grosso modo, plus une chèvre vieillit, plus elle a un poil épais.
Bah oui, quand même, ouais.
D'accord.
Après, ça dépend, hein. Ça dépend de la génétique. On fait une sélection génétique naturelle hein, sur les ascendants, mais du coup, on sélectionne aussi par rapport au mohair. Mais globalement, oui, les mâles et les vieilles chèvres ont tendance à avoir un mohair qui se dégrade un petit peu, quoi, avec le temps.
Et combien de temps ça vit, à peu près?
Bah là, la plus vieille qu'on a, elle a 14 ans.
Quand même.
Ça, c'est pas mal. Hein. Uh-huh. En général, ce serait plutôt 10 ans, je dirais, la durée de vie moyenne, 10-11 ans, quoi.
Et donc, dès qu'elles sont petites, on peut déjà exploiter leur laine?
Ouais, on les tond, bah, il faut même, hein, parce que
si on les tond pas, ça va.
Ouais. Et on voit que ça leur fait vraiment du bien. Après la première tonte, ils grandissent, ils font une poussée de croissance, ça les gêne. Donc, on les tond la première fois à 6 mois, ouais. Ils naissent avec du mohair, quoi.
Ouais.
Déjà, donc.
Et oui. Très bien. Et là, c'est le parc des chèvres qui sont grosses encore.
Celles-ci, elles sont pleines.
J'en ai vu une ou deux.
Ouais. Elles attendent des chevreaux simples, et là-bas, on a les doubles. On a qui sont encore plus grosses.
Bon, très bien.
Ça ne devrait pas tarder.
Très bien.
Bon, bah,
je te remercie, Anna.
Bah, merci à toi.
Et puis, bonne continuation.
Merci.
Allez, je fais stop. Merci à Anna qui a su jongler avec son périlleux emploi du temps pour nous recevoir. Retrouvez toutes les paroles rurales en podcast sur notre site radiosaintafrique.com, rubrique émission hebdo. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.